École normale supérieure, savoir en multimédia.
Pour commencer, je souhaite remercier M. Paul De Cinetti d'avoir accepté notre invitation, puisque sa présence ici nous permet de croiser le point de vue d'un acteur des politiques publiques avec celui des chercheurs qui, en fait, enquêtent sur leurs pratiques de travail. Deuxièmement, mon intervention vise à fournir des éléments de cadrage concernant les conditions sociales de possibilité pour la circulation des œuvres de langue française dans le marché britannique de la traduction, afin d'objectiver les logiques de structuration des marchés mondiaux des biens symboliques et les fonctions effectives que la traduction littéraire peut remplir, à la fois pour le champ éditorial et pour le champ politique. D'un point de vue méthodologique, je me situe dans une perspective de sociologie de la traduction, comme elle est développée au sein de notre labo, en partant des bases posées par Pierre Bourdieu dans son étude sur la circulation internationale des biens symboliques. Elle se base sur une analyse des acteurs des champs impliqués dans ce transfert, le champ intellectuel, le champ éditorial et le champ politique. Mon terrain d'investigation est limité à la contemporary fiction, c'est-à-dire toute production recoupant le secteur des nouveautés et de l'actualité littéraire, et centrée sur le roman et ses sous-genres, le polar, la nouvelle, la littérature féminine, la poésie et le théâtre, les classiques et les auteurs dits du patrimoine, les graphic novels, les livres pour la jeunesse ont été par conséquent écartés. Dans le marché britannique, cette catégorie éditoriale constitue un secteur niche occupé par plusieurs petits éditeurs indépendants qui se situent au pôle de diffusion restreinte, rivalisant avec un petit nombre d'anciennes maisons prestigieuses qui étant devenues imprint de gros conglomérats pendant les diverses vagues de concentration et ayant eu lieu en particulier pendant les années 90, ont la capacité de s'investir dans la traduction et de financer des opérations de marketing conséquentes, mais dont les politiques éditoriales sont soumises aux logiques de performance commerciale imposées par les grosses firmes auxquelles elles appartiennent. Contrairement à ce qu'on peut observer aux États-Unis, les presses universitaires ne jouent pas un rôle dans ce secteur. Oxford University Press est la seule de ces presses ayant une véritable stratégie éditoriale en matière de traduction littéraire. Et pourtant, elle n'a pas été prise en considération puisque sa politique vise plutôt le marché des classiques de la littérature mondiale et donc des ainsi dits auteurs du patrimoine. La contemporary fiction est un genre plus visible par rapport à d'autres et pour cette raison, elle constitue une sorte de loupe capable de révéler comment les enjeux géopolitiques qui régissent le marché du livre traduit sont susceptibles d'exercer un effet structurant sur son économie et de produire sa valeur symbolique. Afin de poser les jalons de notre débat, je vais donc dresser deux états des lieux. Un premier concernant la réception de la littérature en traduction dans le marché britannique pour la période 2000-2010, complété par l'analyse de la situation de la contemporary fiction en langue française. Les obstacles que rencontre la littérature ainsi dite « hexagonale » entre guillemets permettra de faire le lien avec l'intérêt en revanche que la littérature francophone entre guillemets encore, suscite chez les éditeurs britanniques et les enjeux liés à cet engouement qui n'est pas tout simplement esthétique. La Frenchness, une catégorie indigène mobilisée par le champ éditorial britannique, me permettra d'illustrer les logiques de cette polarisation. Un deuxième bilan vise à rendre compte des efforts menés par le bureau du livre de l'ambassade de France à Londres pour construire la valeur symbolique de la littérature en traduction et pour en rehausser le profil en intervenant à un double niveau. Premièrement, auprès des petits éditeurs indépendants pour lesquels la traduction de littérature étrangère constitue une manière d'avoir accès au champ éditorial. Et deuxièmement, auprès des traducteurs. Ce bilan sera suivi d'une comparaison avec les mesures prises par l'Arts Council England. Ma présentation se terminera sur une série de conclusions et de pistes de travail ultérieures afin de penser ensemble l'étude des circulations des littératures francophones du Sud dans le marché mondial de l'édition. Donc, tout d'abord, je vais parler de cette condition d'invisibilité de la littérature traduite dans le marché britannique. D'après le rapport Bowker 2004 sur l'édition et le commerce du livre, cité par Gisèle Sapiro dans son étude sur les échanges littéraires entre Paris et New York, les traductions représenteraient dans le marché de l'anglais un peu plus de 3% des nouveautés publiées. Concernant le Royaume-Uni, d'après la Publishers Association, très influent organisme représentant les éditeurs britanniques, Et d'après les données collectées par son opérateur Whitaker, les traductions en 2001 étaient 1668 sur un total de 119 000 titres nouveaux et révisés publiés au Royaume-Uni, soit 1,1% pour toutes les langues et tous les genres confondus. Or, ces chiffres-là suffisent à eux-mêmes à montrer l'invisibilité et l'absence de légitimité dont souffre la littérature traduite dans le marché britannique. Son statut de littérature difficile, s'adressant à un lectorat doté en capital culturel, découle d'un discours assez consensuel tenu par les acteurs de l'édition mainstream. Ceci tout en reconnaissant la valeur des œuvres littéraires traduites lorsqu'il s'agit d'en convertir le capital symbolique en capital économique, n'accepte pas de s'investir dans la découverte et la publication d'auteurs contemporains considérés non rentables en termes commerciaux. Le risque financier et l'investissement sur le long terme que le processus d'accumulation symbolique implique sont de fait transférés aux petits éditeurs indépendants, créant ainsi les conditions pour la relégation de la traduction à un secteur de niche sous prétexte que les lecteurs ne sont pas intéressés à la littérature étrangère. Dans un contexte politique et culturel qui accorde donc une valeur symbolique à la viabilité commerciale des projets éditoriaux, reconnaissant ainsi au marché une capacité de consacration, si un livre traduit est une opération à succès, il a gagné en légitimité. Or, au sein des grands groupes éditoriaux, souvent la réputation d'une œuvre se fabrique sur la base du capital engagé dans l'acquisition des avaloirs, saisis comme mesure de la valeur. Un livre dont les droits ont été achetés pour une somme d'argent exorbitante acquiert une priorité absolue dans l'allocation des ressources financières par les départements finance et marketing. Il suscite l'intérêt des médias et il bénéficie d'une croyance collectivement construite dans son potentiel commercial. À ce propos, un éditeur indépendant raconte l'histoire d'un éditeur rencontré chez Random House. Donc un éditeur, c'est l'équivalent d'un directeur éditorial. Ayant travaillé des deux côtés de l'Atlantique, celui-ci lui donna le conseil suivant. Est-ce que ça va pour l'anglais? Je peux faire mes citations d'extraits d'entretien directement en anglais, parce que je pense que c'est plus intéressant, parce que c'est vraiment comment les acteurs s'expriment. Well, never buy a book, he said, for less than $1 million. I said, why would one spend $1 million on most of the books? He said, because when you are inside Random House, if you haven't spent $1 million, then nobody turns a switch in all the departments that matter. Book jackets are brilliantly done because we have to. We spent $1 million. Marketing, we have to because we spent $1 million. Cependant, donc cette fonction que certains acteurs du champ éditorial britannique attribuent au prix d'acquisition des droits ne suffirait pas à créer les conditions de réception idéales pour les traductions. Au contraire, d'après ce même éditeur indépendant, en choisissant de publier à fréquence occasionnelle un livre en traduction que l'on destine à devenir un big book, c'est-à-dire un best-seller potentiel, en pariant sur son succès tout en versant un montant très élevé pour les avaloir et en le lançant sur le marché accompagné d'une campagne de promotion et de marketing agressive qui en favorisera l'écoulement rapide, les grands groupes ne lui rendraient pas service. Bien symbolique de cycle long, les traductions littéraires s'adapteraient mal à leur gestion comme bien économique ordinaire, soumis aux logiques de la rentabilité commerciale. Afin d'illustrer cela, le même éditeur indépendant continue en citant le cas des Bienveillantes, The Kindly Ones, roman de Jonathan Little, publié en 2006 chez Gallimard, ayant reçu le Goncourt et le Grand Prix du roman de l'Académie française, écrit en français par un auteur américain. Suite à l'investissement d'une forte somme pour l'acquisition des avaloirs par HarperCollins aux États-Unis et par Chatham Windows, marque du groupe Random House en Angleterre, son lancement en 2007 comme best-seller mondial a fini par s'imposer sur le marché anglo-américain, n'assurant pas cependant la réception positive du roman de Jonathan Little. Donc, je passe maintenant à parler des obstacles à la traduction de la contemporary fiction française et des difficultés d'un livre que souvent on considère a bit too French. Les acteurs du champ éditorial britannique appellent a bit too French. Donc les champs politiques, culturels, économiques qui sont à l'œuvre dans la construction du marché du livre se trouve fortement imbriquée dans la question de la traduction, qui, de part du transfert international qu'elle implique, met les territoires au centre de l'enjeu. Se demander alors comment le livre traduit faire l'objet d'une appropriation symbolique de la part des acteurs impliqués dans la médiation des deux marchés éditoriaux, français et britannique, en vérifiant par quelle pratique l'objet littéraire en circule avec le label de produit national, par quel mécanisme il résiste ou pas au dégriffage de son identité territoriale pendant le processus éditorial, ou comment la catégorie nationale peut devenir même un atout pour un éditeur nouvel entrant, sont autant de questions qu'il est pertinent de se poser pour éclairer les modalités du transfert littéraire à l'ère de la mondialisation. Pour commencer, je vais montrer les difficultés auxquelles se heurte la littérature française dans ce marché. Et pour illustrer mon propos, je m'appuierai sur le cas de The Elegance of the Hedgehog, l'élégance du hérisson, roman de Muriel Barbery, publié par Gallimard en France et par Gallic Book en Angleterre. Donc, encombré de définitions telles que « navel gazing literature », c'est-à-dire une littérature nombriliste, « too self-indulgent », trop auto-indulgente, « quirky », bizarre, slightly outside the mainstream, la littérature contemporaine française est d'emblée considérée difficile. Dans un marché qui privilégie des livres plutôt plot-driven, with good stories and appealing characters, la fiction française est considérée comme étant philosophique, imposant un rythme de lecture plus lent et plus apte à la réflexion. Le cas de l'élégance du hérisson, refusé par la plupart des éditeurs britanniques, finalement publié en 2008 par Gallic Books, une maison d'édition indépendante en activité depuis seulement un an au moment de l'acquisition des droits, constitue un cas d'école. La difficulté de saisir les références philosophiques a été évoquée pendant mes entretiens par l'éditrice d'une maison indépendante pour justifier son refus. I considered that book and I turned it down because I felt philosophy bits were a bit indigestible. Qui de plus est, perçu comme « a bit too French », ce livre aurait posé d'ultérieures difficultés au public. Le lecteur britannique, habitué à la maison indépendante en anglaise, aurait trouvé difficile de se repérer par rapport à un livre dont l'action se déroule dans un immeuble avec une loge de gardienne, comme l'explique cette directrice éditoriale d'une marque prestigieuse appartenant à un grand groupe. « That's probably a classic example of a book. People thought it is just a bit too French. » Well, the apartment block, and will people understand living in that kind of way? It's not like British people in their terraced houses, you know. So, you know, maybe those considerations stopped people from acquiring the rights, and then actually it has been bought by this small publisher and have this huge success. Or, le succès des ventes et l'accueil de la critique ont finalement démenti ces idées préconçues qui auraient pu faire barrage à sa circulation. Adapté pour BBC, BBC Radio 4, vendu à plus de 300 000 exemplaires entre 2008 et 2011, l'histoire de la publication de ce roman en Angleterre constitue un exemple paradigmatique du décalage entre l'horizon des attentes des éditeurs britanniques vis-à-vis de la potentielle réception de la littérature française et sa réalité. Or, les directeurs éditoriaux, mais aussi les traducteurs britanniques, mobilisent souvent une catégorie qu'ils qualifient de « Frenchness » lorsqu'ils se réfèrent à une certaine représentation de la littérature française et au capital symbolique national qu'elle véhicule. Je vais donc montrer les différentes déclinaisons de cette « Frenchness » articulées entre « Gallic Dream », donc le rêve français, gallique, hein, et ses différentes mises en question qui passent par Michel Houellebecq, Faiza Ghen et toute une littérature que le champ éditorial britannique définit comme ayant a new international perspective. Pour commencer, je montrerai à quelles conditions le capital symbolique national lié à la France est susceptible d'être intégré et valorisé par les acteurs du marché britannique et quelles considérations les mettent en confiance face à la décision finale de publier un livre français. Pour la maison indépendante Gallic Books, créée en 2007, ce capital national est un point de force et la base même de toute sa stratégie éditoriale. Jane Aitken, sa fondatrice, mise sur des livres ayant « a very strong sense of place », un fort sentiment du lieu, et veut offrir aux Anglais « a taste of France », un goût de France. Voilà. Donc, afin de réussir dans son effort de publier « The Best of French in English », vous avez par ailleurs le catalogue, là. On s'est passé le catalogue de la maison Gallic. Euh, Donc, afin de réussir dans son effort de publier The Best of French in English, comme on lit dans son catalogue, cette éditrice committed francophile, d'après sa définition, donc une francophile engagée, historienne de formation, ancienne du conglomérat Random House, décorée chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par le gouvernement français en 2009, bâtit son catalogue en misant sur des titres à rentabilité assurée, des polars populaires qui racontent un Paris belle époque, dont les titres évoquent des quartiers très reconnaissables par un lecteur britannique moyen, Montmartre, le Marais, le Père Lachaise, les Batignolles, ou bien de la littérature d'évasion, comme par exemple les romans de Guillaume Musso et Anna Gavalda, ou encore la série de romans classifiés Self-Help de François Lelore, qui voit son héros éponyme Hector réfléchir sur l'amour, le temps, le bonheur. Le thriller historique est un point fort du catalogue avec des auteurs phares comme Jean-François Parot, qui raconte la France à la veille de la Révolution, et Armand Cabasson sur le thème des guerres napoléoniennes. Elle déclare vouloir se positionner au « commercial end of literary fiction », c'est-à-dire du côté commercial de la fiction littéraire, incorporant dans sa stratégie éditoriale des pratiques qui la rapprochent du pôle de grande production, donc des relations privilégiées avec les chaînes de librairies, une politique éditoriale plutôt tournée vers le commercial, des campagnes marketing agressives. Voilà comment elle raconte le début de son entreprise éditoriale. As we read and read to choose our first titles, we were looking for subjects with resonance for a UK readership. For example, the Paris of the Impressionists or the 18th century court of Versailles. All of the historical titles we liked dealt with parts of French history that we in the UK are aware of. Jean-François Parot writes about the period leading up to the French Revolution, Claude Isner about Belle Époque Paris, Paris, Armand Cabasson about the Napoleonic Wars, and Yves Jégot and Denis Lépée about Louis XIV. So the books provide an enjoyable look at the mirror image of much of our own history. Donc, un autre exemple montre comment la catégorie nationale est mobilisée et appropriée par l'éditrice d'une ancienne maison prestigieuse, marque d'un conglomérat en tant que stratégie de vente. Suivant des critères de marketing, elle considère Ensemble c'est tout d'Anna Gavalda comme un roman ayant a kind of French charm, décrivant une French experience à laquelle les Britanniques seraient sensibles et qui bien se destinerait à un public féminin. Donc Ensemble c'est tout d'Anna Gavalda, It was just enchanting. Et voilà, ça c'est le catalogue, mais je vous le fais passer, de Gallic Books. Voilà. Donc, Ensemble c'est tout d'Anna Gavalda, It was just enchanting. And I also thought the British market has a softness for that kind of French experience, blatantly charming, clever, funny. I thought, yes, this is a different kind of book, a book which has a place on our list as well, because particularly at name of the publishing house, we publish a lot of women, so it was very female-biased in some ways. Donc la mise en question de cette Frenchness, ou même son effacement, peut constituer un élément décisif dans l'évaluation de la prise de risque au moment de l'acquisition des droits de traduction. Les exemples qui suivent montrent comment cette catégorie désigne à la fois un roman perçu en contre-tendance par rapport à une certaine représentation de la littérature française et de sa mythologie, tout à fait dominante dans ce marché, c'est-à-dire le pas du tout français, bien qu'étant écrit par un auteur français, aussi bien qu'un roman défini comme pas hexagonal, bien qu'écrit en français. Donc, prenons le cas des particules élémentaires, qui a enregistré un record avec ses 400 000 exemplaires vendus. Devenu un livre culte pour la génération britannique des années 90, le roman de Houellebecq est tenu pour un exemple suprême de ce qu'est un livre français mettant en question sa qualité de Frenchness. It, les particules élémentaires, was such an anti-French novel. It gleefully destroyed everything that the French literary world holds dear. It was not so much about gastronomy, cinema and sex, but the monoprix gourmet meals and television and masturbation. We thought we'd get a couple of good reviews, a lot of bad reviews, and it would probably sell 3,000 or 5,000 copies in our back, and maybe become a little cult book. It has sold about 350,000 or 400,000 copies in the UK, which is absolutely unheard of. Encore une certaine représentation de la Frenchness guide la recherche chez les médiateurs du champ éditorial britannique d'une littérature en langue française with a new international perspective, c'est-à-dire englobant à la fois les littératures francophones, les romans beurre et la littérature contemporaine d'auteurs cultural migrants. Donc vous voyez, c'est une catégorie assez vaste, celle qui est prise en compte par le champ éditorial britannique. Voilà comment la directrice d'une marque prestigieuse au sein d'un grand groupe explique ses choix éditoriaux. The world is a huge place. And we're all interested in broadening our minds, but maybe we don't necessarily want to go to France. We want to go wider. And so a lot of the immigrant voices are good. They speak quite well to Britain. Cette opposition French writing versus francophone writers est aussi mobilisée par une directrice d'une ancienne maison prestigieuse, aujourd'hui marque d'un conglomérat, afin d'expliquer ses choix éditoriaux. Jeune editor, doté en capital culturel et linguistique au moment de son entrée dans le marché éditorial britannique, mais dépourvu de capital symbolique, celle-ci a préféré s'investir dans la recherche d'écrivains francophones d'Afrique et des Caraïbes et d'auteurs ainsi dits « cultural migrants » comme le franco-afghan Atik Raimi ou le chinois d'expression française Dai Sij, vu comme des créneaux porteurs lui permettant de créer sa propre griffe éditoriale. As a young editor, I could make my mark. So, in fact, one of the first books that I acquired was by nom de l'auteur, who's actually a nationalité de l'auteur, but writing in French and living in Paris. I acquired that book, and it was a big success. And people started thinking, oh, maybe you can do books, and you know, they cannot lose lots of money. The French novels that I'm drawn to are often francophone rather than... I don't know why I sort of tend to read more of those books than I would French writing. En effet, bien qu'il transporte le lecteur dans des ailleurs géographiques, littéraires et artistiques, et que leur langue, souvent riche en subtilités dérivant d'un processus de créolisation, ou bien riche en références culturelles spécifiques, constitue un défi pour les traducteurs, les auteurs francophones d'expression française ou français de la deuxième génération d'immigrés, pour laquelle le marché britannique de la traduction manifeste un intérêt, ne semblent pas poser de problème de circulation. Donc, je vous montre maintenant des titres de contemporary fiction du français qui se trouvent englobés dans cette catégorie Literature with a New International Perspective. Voilà. Je le parcours rapidement. Donc... Ce tableau, donc, reportant quelques données relatives à cette littérature with an international perspective, est tiré d'une base que j'ai constituée moi-même, donc base Frisani, on l'appellera, en triant plusieurs sources, liste des titres ayant conçu une ayant reçu une aide à la traduction du Bureau du Livre de Londres, liste des titres ayant reçu des prix de traduction, catalogue des éditeurs, montre à la fois comment la construction de la valeur symbolique de cette littérature francophone passe par la médiation des agents du champ politique, mais aussi en partie par des acteurs de l'incidite société civile, par exemple English Pen, et comment cette littérature participe de la construction de la grandeur de la littérature en langue française dans les compétitions pour le meilleur livre Contemporary Fiction Traduction, comme il est visible dans la liste du prix Independent Foreign Fiction Prize. Donc, entre 2001 et 2011, 33 titres, donc liste encore en phase de constitution, elle n'est pas exhaustive, aussi à cause du fait qu'il est très difficile de repérer des données concernant les traductions au Royaume-Uni, ont été publiées au Royaume-Uni, soit une moyenne de 3 titres par an. 16 de ces titres ont reçu une aide du ministère des Affaires étrangères au titre du programme d'aide à la publication Burgess dans le cadre de sa politique de promotion du livre français au Royaume-Uni, donc soit entre 2 et 3 titres par an. 6 ont reçu une aide à la diffusion English Pen pour le financement de la campagne marketing et 7 ont été sélectionnés pour l'Independent Foreign Fiction Prize. Toutes les langues sont en compétition. Un titre a gagné le Scott Moncrief Prize, prix attribué aux meilleures traductions du français. Je passe maintenant à la dernière partie de ce papier, afin de montrer les efforts menés par le Bureau du Livre de Londres et l'Arts Council England pour construire la valeur symbolique de la littérature en traduction et pour en rehausser le profil. Le marché de la traduction est donc le terrain sur lequel se joue l'image d'une culture nationale dans un champ de réception donnée, tout en étant aussi l'indicateur qui permet de voir sa cote monter ou bien décliner. Pour une culture nationale donnée, occuper le segment de la contemporary fiction, un genre plus visible par rapport à d'autres comme le théâtre ou la poésie, dans un pays comme le Royaume-Uni dont la langue se situe en position hyper centrale dans le système international, signifie s'assurer une place dans la contemporanéité et ne pas être classé comme culture d'arrière-garde. D'un tel effort témoigne l'action des agences nationales de coopération culturelle bilatérale ayant leur siège à Londres, qui interviennent dans le cadre d'une stratégie de diplomatie d'influence avec des subventions permettant aux éditeurs britanniques, souvent de petits entrepreneurs indépendants, pour lesquels la traduction représente une possibilité de bâtir un catalogue et d'accéder au champ éditorial en toute indépendance par rapport aux impératifs du marché, de faire face à des choix considérés comme très risqués. Pour ce qui concerne la France, les aides à la promotion de la littérature et de la pensée française au Royaume-Uni, donc le programme d'aide à la publication Burgess, ainsi baptisé d'après l'auteur de Clockwork Orange, lancé en 1993, dont le montant s'élève à 40 000 euros environ par an, sur crédit du MAE et géré par le Bureau du Livre de l'Ambassade de France à Londres, au titre d'une diplomatie d'influence. Ces aides visant accompagner le risque éditorial engagé par les éditeurs britanniques menant une politique active dans le domaine de la publication d'ouvrages français vers l'anglais, sont assignés sous forme d'aide à la traduction qui peut couvrir entre 20% et jusqu'à 50% des coûts totaux de traduction et de lancement de l'ouvrage traduit lors de débats et d'invitations d'auteurs auprès de l'Institut culturel au titre du fonds d'Alembert géré par l'Institut français. Or, cet effort est indispensable à plusieurs niveaux. D'abord pour reconstruire le rapport entre le français et les nouvelles générations de lecteurs britanniques, comme l'explique cet agent de la politique culturelle extérieure de la France au Royaume-Uni. On peut considérer d'une certaine manière que le fil est rompu entre la littérature française et le public anglais susceptible de la lire. Les éditeurs visent le succès, achètent des livres qui marchent, entre guillemets, et si le livre ici en Grande-Bretagne ne marche pas, on ne suit pas l'auteur, on laisse tomber. Il n'y a pas de continuité véritable, pas de politique éditoriale véritable en direction de la littérature française. Voilà, on est dans des contextes de reconquête complète de l'identité littéraire française. Deuxièmement, le français, se positionnant au deuxième rang de langue la plus traduite au monde, joue un rôle de langue véhiculaire, capable d'opérer une médiation entre plusieurs marchés éditoriaux, permettant aux littératures en langue semi-périphérique et périphérique l'accès à la consécration. Pour ces dernières, l'enjeu est de taille, car résister à la dynamique qui fait que l'hypercentralité de l'anglais finit par repousser aux marges ce qui ne se conforme pas aux normes esthétiques dominantes et légitimes du champ éditorial anglo-américain, signifie ne pas disparaître du champ culturel mondial. Symétriquement, la question de la traduction a un impact aussi sur le champ national britannique. Accusé d'insularité et de provincialisme, face aux contentieux concernant le faible volume des échanges, le champ politique britannique a dû intervenir pour renégocier son image à l'international en développant une stratégie d'aide à l'édition indépendante. Si traditionnellement le Royaume-Uni se méfie de toute catégorie d'intervention publique dans le champ culturel, privilégiant un rapport de distance à longueur de bras, ou arm's length distance model, entre le champ politique et le champ culturel, la question de l'introduction et de sa régulation comme enjeu d'intérêt public a été tout de même placée au sommet de l'agenda de l'Arts Council England, agence semi-gouvernementale ayant un statut de quango, quasi non-governmental organization, chargé de la promotion des arts en Angleterre pour le ministère britannique de la culture, des médias et du sport. Un poste d'International Literature Officer, donc agent responsable de la littérature en traduction, a été créé en 2000 et un soutien est accordé depuis aux petites entreprises éditoriales investies dans la traduction. La quasi-totalité d'elles basée à Londres, comme reconnaissance de leur rôle au nom du dialogue des cultures. Par ailleurs, en 2001, cette agence s'est vue conférer la gestion de l'Independent Foreign Fiction Prize, un prix destiné uniquement à la littérature en traduction, attribué à l'auteur et à son traducteur, financé par le quotidien d'Independent. Par ailleurs, doublement confronté à la réduction drastique des subventions aux arts d'un côté et à la fracture entre culture savante et culture populaire de l'autre côté, l'Arts Council England semble répondre aux contradictions que le libre marché impose à son rôle en s'ajustant aux logiques, aux priorités du pôle de grande production, comme nous le rappelle cet extrait d'entretien avec un responsable de politique culturelle en Angleterre. Donc seulement le succès commercial et pas de critique permettra à la littérature en traduction de sortir de la niche dans laquelle elle a été classée en montrant qu'elle intéresse le grand public. Non, je ne l'ai pas. D'accord. Je vais vous lire cet extrait d'entretien que je trouve illuminant. We need to work more with publishers and retailers to try and challenge this perception that translation is just a niche, a literary thing, and to show that these books can actually be very popular and successful. While we want to try to influence this conversation, we have to be careful. You can always make the argument that it's worth publishing these books because they're fantastic works of literature and might win prizes. But that has the effect of reinforcing this distinction between popular books and niche literary books. That's what we want to get away from. I think it's important to try to frame the argument in terms of likely commercial success of books. In order to do that, there needs to be quite a lot of examples where books in translation have gone on to be successful. Et je passe maintenant aux conclusions. Donc, une première conclusion. Les représentations de la Frenchness constituent, comme on a vu, un principe de classement à partir duquel une série de stratégies de distinction sont mises en acte, fonctionnant donc comme facteur d'intégration, mais aussi d'exclusion. Ce premier aperçu sur ces usages confirme le poids des cultures nationales dans la circulation d'un bien symbolique comme le livre, qui se trouve donc fortement associé à un territoire, soit qu'il le transcende, soit qu'il le revendique. Prise aux enjeux culturels et politiques du champ d'accueil, la réception reste donc un phénomène culturel local, en contradiction avec la rhétorique du libre marché et de sa main invisible. Ce même principe de classement est à l'œuvre dans la polarisation entre littérature française et littérature francophone opérée au sein du champ éditorial britannique. Et il permet de reconstruire les logiques de structuration du rapport de force dans lequel cette polarisation s'inscrit. Deuxième conclusion. Si la littérature française et la littérature en langue française sont pensées comme l'une s'opposant à l'autre au sein du champ éditorial britannique, comme par ailleurs dans le champ académique anglo-américain, ce qu'on n'a pas évoqué dans cette recherche, mais qui sera l'objet d'un développement ultérieur, elle est perçue en revanche comme l'une s'incorporant à l'autre par les acteurs du champ politique français, comme montré dans le dernier tableau. Troisième conclusion, la littérature francophone, entre guillemets, fait l'objet d'une appropriation symbolique de la part des acteurs du champ éditorial et politique situés des deux côtés de la Manche, impliqués dans ce transfert. Si l'enjeu pour le champ éditorial d'accueil est largement celui de consacrer des auteurs qui sembleraient entrer par la marge, tout en étant ainsi un moyen d'accumulation de capital symbolique pour leurs importateurs qui mettent en acte ainsi des stratégies de distinction, en effet, cette appropriation fait l'impasse sur deux questions. Un, le fait que la plupart de ces auteurs de la périphérie sont d'abord publiés en France, par des maisons d'édition françaises occupant des positions dominantes ou consolidées dans le marché national. Le fait que ces auteurs ont accédé à la reconnaissance par le centre, Paris, à travers ces instances de légitimation, donc prix littéraire, critique dans les magazines spécialisés, etc. En ce qui concerne le champ politique français, en charge de la promotion culturelle au Royaume-Uni, l'appropriation symbolique de la littérature francophone assimilée à littérature nationale par le biais des aides à la publication s'expliquerait par le fait que ces auteurs ont affaire au champ éditorial français, ce qui pose le problème de la création d'une édition indépendante en Afrique et dans les Caraïbes. Enfin, la construction de la valeur symbolique de la littérature francophone passe par la compétition entre deux centres éditoriaux impliqués dans la médiatisation de cette littérature, Londres et Paris, rivalisant pour sa distribution et en gagnant dans cette lutte des profits symboliques et des bénéfices de distinction. Je propose donc des pistes de travail ultérieures afin d'avoir une compréhension plus fine des enjeux et des logiques de circulation de la littérature francophone concernant, 1, le rôle du marché éditorial québécois, par exemple, dans le déplacement du centre, rivalisant avec Paris pour la consécration des auteurs du Sud, la question de la création d'un marché du livre national ou bien régional en Afrique, comme déjà évoqué. Une reconstruction plus fine des données récoltées pendant mon enquête devrait permettre, dans une phase successive, de mieux saisir les gains de transit et les profits de distinction que dérivent aux champs éditoriaux français et britanniques par la circulation de ces œuvres et de mieux encadrer les enjeux du transfert littéraire impliquant deux anciennes puissances coloniales comme la France et le Royaume-Uni en quête de nouveaux repositionnements géostratégiques dans un marché éditorial globalisé. Voilà, je termine sur cette note-là et je ne sais pas si on veut peut-être d'abord passer la parole à Monsieur De Cinetti pour qu'il nous illustre la stratégie pour le livre francophone dans le marché mondial.
Très bien. Je réagis par rapport à ce que vous avez dit. Je trouvais tout à fait avant de parler plus précisément de ce pourquoi je suis là. Mais par rapport aux chiffres que vous avez donnés sur ce qui a fait réagir mon ex-collègue et toujours ami Paul Fournel, qui dirigeait le bureau du livre, sur le nombre de titres ayant bénéficié du pape Burgess.
Non, c'est les 16 titres qui ont les titres de la littérature francophone en langue française ayant une new international perspective.
D'accord.
Okay. Donc entre c'est une liste en phase de constitution. Hein. Donc.
D'accord, parce que comme vous le savez, les programmes, enfin mon ex-collègue et toujours ami Paul Fournel pourra vous le dire, mais les programmes d'aide à la publication Burgess, c'est plutôt 30 titres par an. Qui sont aidés.
Ces chiffres-là ne concernent pas la totalité des livres qui sont aidés par au titre du pape Burgess. Au contraire, hein, c'est une moyenne de 25 titres par an. Et j'ai compté entre 2010 et 2011, on arrive à un total de 250 titres traduits, donc sur une totalité de 10 ans. Mmh. Mais donc, sur la base de mes données, sur une liste de 33 titres concernant les voix internationales, les voix francophones internationales, 16 ont été aidés par le bureau du livre.
Qui passent la frontière,
qui sont traduits.
C'est non français ou des nationaux?
Ben justement, dans la liste. Oui, excusez-moi.
Oui, Paul, prends le micro pour que ça puisse passer après en enregistrement. Ouais.
Mais justement, c'est...
Enregistrement. Oui, donc, simplement, je voulais savoir si, quelle est la définition de ces voix internationales. Est-ce que c'est des voix non françaises ou est-ce que ce sont des binationaux ou est-ce que ce sont des gens qui sont français plus, français moins
ou édités en France.
Voilà. France, ben justement, on entre dans le débat, finalement, oui. Parce que la catégorie que j'ai prise, moi, est une catégorie indigène, une catégorie qui est utilisée par le marché éditorial britannique. Et eux, ils appellent comme ça tout ce qui n'est pas hexagonal. Donc, tout ce qui est, et pour eux, ce qui n'est pas hexagonal, même la littérature beurre, hein, rentre dans cette catégorie de littérature non hexagonale.
Oui, donc, même donc, si ça n'a rien à voir avec la nationalité des auteurs. Donc, en fait,
non. Il est vrai que dans cette liste, il y a plusieurs. Hein, voilà, si on veut rentrer dans les détails des nationalités.
C'est un vrai sujet, en l'occurrence.
Ben justement, hein. c'est les questions qu'on se pose, justement. Oui.
Parce que dire Faizagen n'est pas un auteur français, ben c'est assez étrange.
C'est l'intérêt de lancer un débat sur ces questions. Je vois là, Étienne, peut-être que tu l'es.
Je me demandais si ce n'était pas essentiellement une catégorie qui était plus thématique que géographique, de fait, puisque la littérature beurre y est intégrée. Donc c'est en fait tout ce qui, au final, thématiquement, pourrait être perçu comme difficile à intégrer à un espace perçu comme français, à un espace républicain unique et indivisible. Enfin voilà, quoi.
Exactement, c'est ça.
C'est intéressant,
bon, je vais parler, après on continue.
Ben voilà, non, mais vous voyez, c'est bien parce que comme ça, on a déjà posé vraiment les termes du débat qu'on voudrait engager tout à l'heure. Mais je pense qu'il serait intéressant déjà de voir quelle est la stratégie pour ces voix francophones. Donc moi, je le mets entre guillemets parce que je cherche encore une manière de classifier ce que cette catégorie englobe, je ne sais pas encore. Donc moi, je suspends le jugement et je passe la parole à M. De Sinetti.
Merci beaucoup, Marcella Frisani. Je remercie bien l'association Francophonie ENS de m'avoir convié pour participer à ce séminaire créé et diffusé en francophonie comme directeur du département du livre et de la promotion des savoirs de l'Institut français. J'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé particulièrement intéressant les études très, très, très avancées que vous nous avez exposées au sujet de la pénétration de la création littéraire francophone contemporaine au Royaume-Uni. Je voudrais juste pour dire déjà et éviter les discussions sur lesquelles un opérateur public n'a pas à trancher de la manière dont on n'aide ou on n'aiderait pas un auteur de langue française. À travers le dispositif des programmes d'aide à la publication, soit gérés par nos postes diplomatiques, dont celui de Londres, soit gérés directement à l'Institut français sur les aides à la cession, qui vient en appui au programme d'aide à la publication géré localement. Nous ne faisons pas de distinction de nationalité, de provenance, de génération, que sais-je encore. Le seul critère sur lequel nous sommes obligés de prendre en compte, c'est l'éditeur. En vérité, c'est selon l'éditeur que l'on décidera s'il est français ou s'il n'est pas français, d'apporter une aide à la traduction de l'ouvrage, tout simplement parce que la mission de l'Institut français et du réseau diplomatique, c'est de promouvoir, certes, la littérature de langue française, donc les idées, donc les valeurs, donc les débats, les faire diffuser et mieux connaître à l'international, mais c'est aussi d'apporter une aide à l'industrie culturelle, indirectement, puisque directement, cela revient plutôt du giron du ministère de la Culture et de la Communication, mais c'est aussi apporter indirectement une aide aux industries culturelles françaises, dont l'industrie du livre. Alors, pour resituer peut-être, vous le feriez d'ailleurs bien mieux que moi par rapport au travail que vous menez et à ceux de Gisèle Sapiro, pour qui j'ai la plus grande admiration, pour resituer la langue anglaise, c'est une langue, on va dire, de traduction qui arrive assez derrière d'autres langues. le marché mondial de la traduction pour les titres français, c'est dans le peloton des têtes trois langues qui changent d'une année à l'autre, peut-être de la première à la troisième place ou de la deuxième à la première place, mais c'est toujours les mêmes trois langues, c'est l'italien, l'espagnol, le portugais. Ce sont des langues latines. Donc je crois que c'est très important de situer le contexte pour justement déterminer l'importance des efforts qui sont entrepris par rapport à la langue anglaise, soit aux États-Unis, soit au Royaume-Uni, qui arrive plutôt en 7e, 8e position, puisqu'après on a l'allemand, le coréen, le chinois. Donc la langue anglaise arrive après le chinois. C'est intéressant aussi de situer un contexte, me semble-t-il, plus large, et de voir que et on édite plus de livres de langue française aux États-Unis, traduits, qu'au Royaume-Uni. Il faut aussi le rappeler. Oui, allez-y si vous voulez.
Dans le cadre justement par exemple du portugais, est-ce que justement au niveau des traductions ça se fait plus au Brésil qu'au Portugal ou bien en Argentine qu'en Espagne de la même manière
Alors ça c'est aussi une grande question. Je vais y répondre et si vous voulez je vais rappeler mais quelques points qui résument nos actions. Rassurez-vous, je serai pas trop techno et trop et je n'entrerai pas trop dans les détails, mais pour comprendre comment l'Institut français agit avec le réseau culturel. La part de marché, et il faudrait le Bureau international de l'édition française qui répondrait aussi mieux que moi, plus précisément, de manière plus scientifique sur ces points, avec des statistiques. La part de marché sur la langue portugaise, Portugal-Brésil, elle explose au Brésil. Hein, elle est beaucoup plus importante au Brésil qu'au Portugal. Je ne pourrais pas vous dire les rapports, mais les rapports sont assez... La distance est assez importante entre le Brésil et le Portugal. Le Brésil a un vrai leadership en termes d'édition, de traduction d'ouvrages de langue française, soit dans le domaine des littératures, soit plus particulièrement encore dans le domaine des sciences humaines et sociales. Philosophie, psychanalyse, on connaît le goût pour la psychanalyse de nos amis brésiliens. Le deuxième point sur l'hispanophonie, alors c'est un peu plus compliqué, c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins schématique. On dit que la fiction française c'est dite davantage en Espagne et les sciences humaines et sociales davantage en Amérique latine, enfin en Amérique au sens large du terme, Mexique et Argentine, qui sont les deux pays qui éditent le plus de traductions de livres français. La fiction, donc, revenant à l'Espagne et les sciences humaines et sociales revenant aux Amériques. Alors maintenant, avec les changements et les rachats de groupes et les installations aussi d'éditeurs argentins ou mexicains en Espagne, c'est un phénomène nouveau qu'on peut observer, ça devient beaucoup plus complexe. On peut répartir cela à peu près comme cela, et puis ajouter que la littérature française traduite en espagnol, les éditeurs acquièrent les droits mondes, généralement. Ça, c'est aussi très important. Ce qui posera d'autres problèmes, notamment de distribution-diffusion, d'ouvrages édités en Argentine, par exemple, même pas nécessairement en Espagne, mais sur le cône sud, par exemple, au Chili, passer la frontière. Donc, d'autres problèmes qui se posent, question de distribution et de diffusion. Mais en général, les éditeurs français cèdent les droits mondes pour la langue espagnole, d'où la rivalité très forte qu'il peut y avoir sur certains titres entre éditeurs sud-américains et éditeurs espagnols. Voilà. Alors je vais juste dire quelques mots sur l'Institut français et les raisons qui me font parler ici. L'Institut français, c'est un nouvel établissement public qui a été créé il y a un peu plus d'un an, établissement public industriel et commercial, créé et placé sous la tutelle exclusive du ministère des Affaires étrangères, donc financé intégralement par le ministère des Affaires étrangères lorsqu'on parle de financement public. Avec des missions élargies par rapport aux autres dispositifs existants au préalable. Je vous fais grâce des nombreux opérateurs qui sont succédés, qui ont fusionné et qui se sont restructurés depuis 20 ans, mais avec des périmètres élargis aux sciences humaines et sociales, élargis au débat d'idées, élargis à la coordination des médiathèques dans le monde. Du réseau culturel, élargi à la valorisation de la culture scientifique. Là, je parle uniquement pour mon département. D'autres départements ont été constitués. Un département sur la promotion de la langue française, un département pour objectif de former les agents de notre réseau culturel. Et ce département livre et promotion des savoirs, au moment de la création de l'Institut français, aurait pu tout aussi bien s'appeler département traduction et promotion des savoirs. Pourquoi ? Parce que la traduction est considérée actuellement par la direction de l'Institut français et la direction générale de la coopération internationale et du développement au ministère des Affaires étrangères comme une priorité du ministère des Affaires étrangères dans sa politique d'influence. Non pas que le français soit en recul, mais que c'est un fait observé. Les études francophones sont en... L'apprentissage du français n'est pas en recul, mais les études francophones connaissent un certain recul, en revanche, dans les universités nord-américaines. C'est un fait que vous pouvez observer, mais dans d'autres lieux encore. Et donc, il a apparu important de réinsister davantage sur nos actions d'aide à la traduction de nos ouvrages pour favoriser la circulation de nos auteurs contemporains et en cela pratiquer une politique culturelle d'influence à l'international. C'est donc la mission de mon département dans le domaine des idées, des traductions d'ouvrages, de la promotion de la culture scientifique et du débat d'idées. Alors, je vais venir plus dans le sujet en disant que là, je vais vous parler de deux dispositifs qui me paraissent importants. Les programmes d'aide à la publication, les programmes d'aide à la traduction, tout ce qui touche à la traduction. Qui est un pôle d'activité en soi. Et d'autre part, puisque nous parlons de littérature francophone et que je ne veux pas refuser de prendre complètement d'accepter de répondre complètement à cette question, les aides aux littératures francophones au sens post-colonial du terme, c'est très peu diplomatique ce que je dis, mais c'est une réalité, à savoir l'Afrique subsaharienne, les Caraïbes, l'océan Indien et le Maghreb, pour une moindre part, qui correspondent au champ de l'ancien champ de la coopération. La traduction, donc nos actions pour la traduction. On vous l'avez rappelé avec l'exemple du bureau du livre, de l'action menée par le bureau du livre de Londres. C'est déjà un réseau. Avant de parler de l'opérateur Institut français à Paris, c'est déjà un réseau qui propose une quarantaine de bureaux du livre dans le monde et qui aussi propose 400 médiathèques dans le monde, de plus ou moins grande taille. Avec, on peut considérer, 150 médiathèques de taille assez importante. Donc ce sont 150 médiathécaires et 40 agents qui tiennent des bureaux du livre dans le monde. Et ces 40 bureaux du livre, mais il peut très bien aussi y avoir des programmes sans qu'il y ait de bureau du livre dans certains de nos postes diplomatiques, gère ce qu'on appelle des programmes d'aide à la publication, des programmes d'aide à la traduction. On peut compter, depuis que ce dispositif a été créé dans les années 90, on peut compter 20 000 traductions, 20 000 de titres français en langues étrangères dans plus de 70 pays, gérés donc qui ont bénéficié donc d'un peu plus de 70 programmes d'aide à la publication gérés localement. Ces programmes d'aide à la publication... Je vous passe les détails. C'est un travail mené par notre attaché en charge du livre sur le terrain, à l'écoute des éditeurs et à l'écoute des professionnels du livre français. C'est vraiment un travail de niche, un travail de conviction, et dans certains pays comme le Royaume-Uni, c'est vraiment un travail de militantisme, qui va donc, d'une part, être à l'écoute des demandes des éditeurs locaux, mais accompagner ces demandes en faisant des propositions nouvelles pour les amener à créer d'autres collections, à publier d'autres auteurs. C'est un travail qui se fait de manière très empirique, très pragmatique, mais qui toujours s'appuie sur des traducteurs, des agents, des attachés des maisons d'édition en charge des droits étrangers, et qui donc notre agent, l'attaché du livre, est vraiment à l'interface de nombreux métiers du livre, de la traduction à l'édition, en passant par les responsables des droits étrangers. Et donc ce travail-là est extrêmement précieux, et ainsi ces programmes viennent directement en aide aux éditeurs étrangers, contrairement aux programmes d'aide à la traduction qui existent à Paris, gérés par le ministère de la Culture, qui viennent en aide pour l'extraduction aux éditeurs français. C'est-à-dire que le travail de notre poste diplomatique, c'est un travail d'influence sur place, locale, qui permet de travailler directement avec un éditeur étranger, de proposer des titres et d'aider à la traduction ou à la promotion pour une mission d'auteur, lorsque le titre est paru pour une conférence ou pour des promotions. Et c'est donc un travail de diplomatie de terrain. Le travail réalisé par le ministère de la Culture, je crois que c'est important quand même de parler de ces deux dispositifs, c'est un travail en centrale, avec des commissions franco-françaises, à l'écoute des demandes des éditeurs français. C'est donc une double logique qui cohabite de manière assez exemplaire, et qui permet en cela de couvrir le plus de demandes possibles. On peut dire qu'on a probablement l'un des meilleurs dispositifs d'aide à la traduction au monde, et que sans cela, sans ces deux types d'aide, une aide locale qui vient en aide à des éditeurs locaux, et une aide centralisée à Paris qui vient en aide aux éditeurs français, sans ces doubles leviers, je pense qu'on aurait moins de d'influence et moins d'importance dans les traductions. Les aides publiques, ministère de la Culture, ministère des Affaires étrangères confondus, je parle souvent de contrôle, ça représente un peu moins de 10% des cessions des titres réalisées chaque année par les éditeurs français. C'est donc très important. Et quels sont ces titres que nous éditons ? Alors évidemment, c'est probablement pas... des auteurs qui n'ont pas besoin d'être aidés. Un auteur qui vend bien comme Marc Lévy ou d'autres auteurs peut-être plus littéraires, et je ne porte pas de jugement de valeur, comme Anna Gavalda, n'ont pas besoin d'être aidés par définition. Un prix Nobel, il a fallu qu'il ait prix Nobel. Ça a été un autre problème. Comme le Clésio n'a plus besoin d'être aidé. Nous ne venons en aide pour des nouveaux auteurs. Nous essayons de valoriser, nous, post-diplomatique Institut français, des nouveaux auteurs, aussi bien francophones, représentant toute la diversité des expressions francophones géographiques, que des auteurs français hexagonaux. C'est des actions qui se déclinent soit dans le domaine de la littérature, soit dans le domaine des sciences humaines et sociales. C'est ainsi qu'il y a 10 ans, on a pu traduire Foucault, Deleuze, Derrida, tout ce qui est venu après la French Theory, qui a été récupérée, comme on le sait, aux États-Unis, tout ce qui est venu de la French Theory, et tout ce qui a pu être mis en œuvre pour faire connaître ces auteurs que je viens de citer et d'autres encore, eh bien, a permis en Turquie, en Chine, en Slovénie, en Bulgarie, en Russie, au Mexique, au Chili, dans des pays au contexte très 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 divers, a permis à ces auteurs d'être traduits. Donc c'est dire l'importance de notre dispositif local. Alors, on a constitué, autre nouveauté de l'Institut français, deux outils numériques pour justement diffuser les auteurs de langue française francophone. Une médiathèque en ligne qui va permettre à n'importe quel abonné de la médiathèque, de l'une des médiathèques de notre réseau diplomatique, de pouvoir se connecter à la médiathèque, une médiathèque numérique et ainsi accéder à plusieurs 70 000 contenus pour l'instant, son, images, écrits, avec un simple code d'accès, ce qui révolutionne aussi les pratiques de nos médiathèques et des logiques de nos métiers, puisque jusqu'à présent c'était une médiathèque traditionnelle qui accueillait du personnel qui avec un personnel sur place physique, tangible, accueillait des visiteurs. Là il suffira de se connecter depuis son ordinateur portable, depuis un campus universitaire, ce qui évitera naturellement, ce qui permettra, je veux dire, à conquérir de nouveaux publics plus jeunes, des publics étudiants. C'est évident qu'avec avec ce programme, on pourra toucher un étudiant de Loyola College à Chennai qui n'aura pas besoin de se taper 3 heures de transport en commun et qui donc ne viendra pas nécessairement à la médiathèque. Donc, médiathèque. Et puis, la création d'un réseau social collaboratif dédié à la traduction, qui s'appelle IF Verso, qui est nouveau et qui là, recense près de 80 000 références bibliographiques d'ouvrages traduits du français vers les langues étrangères, permettant ainsi aux traducteurs, aux responsables des droits étrangers, aux éditeurs, aux agents et à nos attachés culturels d'entrer en contact les uns avec les autres pour favoriser les échanges et la formation. Donc c'est une banque de données et un réseau social qui s'appuie sur cette banque de données. Puis, on ne peut pas parler de la traduction, de la nécessité de la traduction, sans évoquer les traducteurs. Il en va de même, d'ailleurs, pour les questions d'interprétariat. On assiste à une baisse très sensible, d'ailleurs, concernant le nombre de traducteurs qui travaillent donc à partir du français vers leur langue maternelle, des traducteurs littéraires. Ça, c'est un fait observable. Et pour y remédier, pourquoi ? Parce qu'il y a multiples raisons sur lesquelles on ne va pas s'étendre. Mauvais traitement du traducteur dans certains pays. La France est un cas assez rare qui fait bénéficier au traducteur un statut qui est celui de l'auteur, quasiment. Hein. Mais ce n'est pas évidemment le cas dans d'autres pays. Évidemment, perte d'influence dans les universités de la langue française. Donc, un certain nombre de facteurs qui concourent à un problème d'épuisement du vivier traducteur. Et donc, pour répondre en partie à ce déficit, on a créé il y a un an et demi des programmes avec le Collège international des traducteurs littéraires, l'association Atlas à Arles, qui permet un programme assez pratique sur des sessions de 3 mois chaque année 4-5 langues qui sont proposées, naturellement les langues des BRIC, hein, puisqu'on est toujours dans une logique d'influence, hein, portugais pour le Brésil, russe, anglais, chinois, mais aussi les langues correspondant à des langues de marché, italien, espagnol notamment, qui permet ainsi à des jeunes traducteurs de venir se former pendant 3 mois à la traduction littéraire en binôme avec des jeunes traducteurs français. Et le traducteur qui travaille plutôt en chambre, qui est naturellement dans une démarche quasi monacale, bien souvent ce type d'offre lui permet d'échanger, de créer des réseaux. Le mot réseau est vraiment important, je crois, de plus en plus important, et de bénéficier aussi de l'encadrement de tuteurs qui accompagnent ces modules de formation. Et puis, bien sûr, de faire connaissance avec la France. Bien souvent, il y a des traducteurs. On en connaît, toi, Paul, t'as pas mal bourlingué aussi, qui ne sont... Il y a 20 ans, en Égypte, il y avait des traducteurs qui n'étaient jamais venus en France. Et il y en a encore. Donc tout cela pour dire que L'influence, c'est très bien, mais il faut que ça s'inscrive dans des logiques précises. Un réseau constitué d'ensemble de nos agents formés, professionnels, des médiathèques, des centres de ressources, des traducteurs, donc des nouveaux traducteurs qui sont formés, et des aides. Il faut que ces conditions-là soient réunies pour qu'on puisse faire fonctionner des aides à la traduction, des aides à la publication. Et enfin, inviter un auteur lorsque le livre est sorti. Ou provoquer des rencontres avec à l'occasion de festivals littéraires. Alors, en ce moment, c'est amusant parce que j'ai repéré que nous avions 5 actions importantes menées ce mois-ci. Une action qui vient de se terminer à Los Angeles, avec sur le thème du polar, en partenariat avec UCLA, et qui a fait dialoguer des auteurs français et francophones. Alain Maboncou enseigne bien sûr à UCLA, avec des auteurs américains. Intéressant. On a une action en ce moment même à Abidjan, Côte d'Ivoire. C'est la première fois qu'on mène une opération de cette envergure-là de rencontres littéraires et intellectuelles sous la figure tutélaire d'Amadou Kourouma, avec là une quinzaine d'universitaires et d'écrivains français et francophones, en partenariat avec l'Agence universitaire francophone, qui sont en train de débattre sur l'œuvre de Kourouma, qui est, comme vous le savez, est considéré comme l'un des pères fondateurs de la littérature africaine moderne. Il va y avoir Saint-Malo, le festival Étonnant Voyageurs qui commence demain, avec lequel nous sommes partenaires, qui est quand même un festival par définition de diversité culturelle et où la francophonie a toute sa place, il y a plus que sa place, puisque c'est quand même par Saint-Malo que un grand nombre d'auteurs comme Alain Maboncou, comme Abdourahmane Waberi, Samy Tchak, mais pas seulement des auteurs d'Afrique subsaharienne. On pourrait parler aussi des Haïtiens comme Daniela Ferrière, Lionel Trouillot, Gary Victor ou Émilie Prophète. C'est par ce festival qui a été créé, je crois, il y a 25 ans, 30 ans. Oui, c'est par ce festival à Saint-Malo qui a eu une présence francophone et qui a eu une conscience de l'importance de la création littéraire francophone dans l'Hexagone, une prise de conscience. Et donc, pourquoi nous sommes partenaires de cette opération? C'est parce qu'il va y avoir une nouvelle structure qui regroupe les 8 plus grands festivals littéraires au monde, Édimbourg, Pékin, le Festival Pen de New York, Paraty au Brésil, Jaipur en Inde, Étonnant Voyageur, j'en oublie un autre, et qui, donc la constitution de cette nouvelle structure avec une charte, des principes de régulation d'auteurs, de programmation, va nous permettre de faire circuler davantage et mieux dans ces grands festivals internationaux des auteurs de langue française, français ou étrangers, peu importe, à condition qu'ils aient une œuvre et qu'ils aient quelque chose à dire dans les débats de la mondialisation aujourd'hui. Et donc, nous sommes partenaires à ce titre du festival Étonnant Voyageurs, qui est quand même, on assiste à un changement très très important de cap, parce que c'est un fait. La difficulté pour les auteurs de langue française, c'est d'être entendu dans les grands festivals, dans les grands rendez-vous internationaux, avec une domination écrasante, le monopole de la langue anglaise et des écrivains donc anglo-saxons. Je finis j'entre plus davantage dans les questions de programme francophone sud. Juste pour dire que on a plusieurs actions pour valoriser les auteurs francophones du Sud. Alors effectivement, il y a des actions qui relèvent d'un ancien champ de la coopération, d'une ancienne pratique, mais qui a toujours son importance aujourd'hui, qui rejoint un peu d'ailleurs le festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo. C'est de permettre à des auteurs du Sud, de langue française, d'être reconnus en France. Pourquoi en France? Parce qu'on sait bien que comme on peut y assister, le constater aujourd'hui avec beaucoup d'écrivains que je viens de citer qui sont édités par des éditeurs français, on sait bien que pour ces auteurs du Sud, la reconnaissance ne peut venir que s'il y a une édition en France. C'est un fait, c'est comme ça. Davantage en France qu'en Suisse ou qu'en Belgique. Le Québec est une autre problématique. Parce que le Québec, c'est vraiment l'Amérique du Nord. Je crois que c'est autre chose. Et donc, on a une action importante, c'est de créer chaque année un grand rendez-vous autour des littératures éditées au Sud, francophone, Afrique, Caraïbes, Océan Indien, au Salon du Livre de Paris, sur un espace où on propose un fonds de librairie. Et là, vous voyez, on vient tout de suite aux questions de titres, d'édition, de disponibilité d'ouvrages, de distribution, de diffusion. Donc on propose un fonds de librairie de 2000 titres, dont la moitié édité au Sud, avec la venue d'auteurs d'Afrique ou des Caraïbes, un grand nombre pour la première fois, qui viennent pour entrer en débat donner des conférences dans le cadre du Salon du Livre, et donc rencontrer pour la première fois le public et le marché français. On a un site d'information qui s'appelle culturesud.com, que vous connaissez peut-être, qui reflète les littératures, qui est un site de débat et où on trouve un grand nombre d'articles sur le fait littéraire francophone. On mène un certain nombre d'opérations de promotion d'auteurs. On fait venir beaucoup d'auteurs francophones à l'international. L'Institut français, je ne parle pas des postes qui ont aussi leur propre politique d'auteur, que nous tâchons de coordonner, enfin en tout cas de faire mieux concerter, mais on envoie à peu près 150 auteurs par an dans le monde en mission, l'Institut français depuis Paris. Et sur ces 150 auteurs, on peut constater qu'un tiers est francophone, au sens non hexagonal, passeport français né en France, de mère bretonne et de père alsacien. Donc au sens difficile à dire aujourd'hui, que les anglo-saxons, que les britanniques essayent de classifier, mais on voit bien qu'on a du mal et que ça échappe à toute règle. Et heureusement que ça échappe à toute règle. Il n'y a rien de pire que de classer les gens dans des ghetto. C'est ce que détestent d'ailleurs les auteurs francophones, un grand nombre d'entre eux. Donc, on a cette part importante de valorisation, de circulation des auteurs francophones dans des grandes opérations menées aussi par notre réseau diplomatique. Et puis, on a mis deux nouveaux programmes en place qui là touche plus spécifiquement aux questions de division. Parce qu'on s'est dit, c'est formidable que des auteurs francophones puissent être édités chez des majors comme Gallimard, Le Seuil, ou des plus petits comme Sabine Vespizer ou Vendailleur, comment ?
Actes Sud.
Actes Sud, naturellement. Mais c'est très très bien, on se réjouit et on assiste à ce phénomène. Mais enfin, il y a quand même un problème, c'est que l'auteur, il est édité en France et il n'est pas disponible dans son propre pays. Ça pose quand même un problème à la fois moral, évident, et plus pragmatique en termes d'influence. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi c'est évidemment d'entrer, de garder un dialogue avec les acteurs professionnels du livre en Afrique subsaharienne. C'est important pour notre coopération de travailler avec les professionnels qu'il peut y avoir. Et donc, on, à travers un dispositif un petit peu technique, on a mis en place un programme qui consiste à favoriser l'édition d'auteurs francophones déjà édités en France dans les pays du Sud. Comment ? De manière assez simple, en prenant en charge, nous, Institut français, le montant de la cession du titre, donc du français vers le français, on n'est plus dans une logique de traduction, mais dans une simple logique de cession, donc en prenant en charge le montant de la cession de l'ouvrage et en Et en s'assurant toutefois, avec une commission ad hoc qui est constituée, que l'éditeur togolais, camerounais, ivoirien répond à un certain nombre de critères, respecte le droit d'auteur, respecte... Ceci, ça évite le photocopiage, ça évite aussi d'avoir dans des librairies francophones, qui tendent d'ailleurs à disparaître. Enfin, on va revenir peut-être aussi sur un autre problème qui est la question de la distribution, avec, je pense, d'autres solutions qui sont à trouver du côté du numérique, parce qu'on voit bien que l'Afrique a pris d'une certaine manière même devant nous concernant les pratiques numériques. Et donc, d'éviter que l'ouvrage édité chez tel ou tel éditeur français soit effectivement disponible dans la librairie francophone, mais à un prix majoré. Pourquoi ? Parce qu'il y a le transport, il y a les taxes. Donc, généralement, le prix n'est pas bonifié, sauf en certains cas. C'est pour ça qu'il ne faut pas être non plus trop idéologique. Ça nécessite un contact et une vraie pédagogie vis-à-vis des éditeurs français. Et c'est ainsi qu'on a permis là j'ai les chiffres, depuis un an que ce programme existe, on a soutenu 38 projets éditoriaux dans 10 pays d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. C'est pas énorme quand on voit la production massive qui existe, mais c'est un début qui permet progressivement. De toute façon, l'Afrique, il faut être patient. La leçon d'Afrique, c'est le temps, c'est la patience, c'est pas les mêmes rythmes. C'est un dispositif éditorial qui est en train de renaître, qui permet ainsi à des catalogues d'éditeurs locaux de pouvoir afficher des têtes de référence. Et ça permet naturellement un acheteur potentiel de pouvoir acquérir le prix à un prix adapté au marché local. Mais pourquoi je dis qu'il ne faut pas être idéologique ? Parce que les difficultés que nous rencontrons avec les éditeurs dans la cession de ces titres du français vers le français, d'un éditeur français vers un éditeur du Sud, sont principalement d'ordre, certes économique, mais aussi de méfiance de par la nouveauté du programme. D'ordre économique, alors que les réalités sont disproportionnées. L'obstacle ne vient pas de la part du responsable de droit. L'obstacle vient généralement du directeur export. Parce que le directeur export, il va dire, ben oui, mais c'est très bien qu'il y ait Henri Lopez qui soit disponible au Sénégal. Par tel éditeur sénégalais, mais enfin moi, ça fait, je vois mon petit tableau Excel, tac tac, je vois Henri Lopez, sur ce titre-là, j'en vends 25 par an, et donc ça fait 25 en moins. 4, me dit-on. Non, c'est pour ça que les réalités sont disproportionnées, mais c'est là tout l'enjeu, c'est de réussir d'avoir un vrai dialogue pédagogique avec l'éditeur pour lui faire comprendre que bien souvent, une cession de droit, en plus sur une durée limitée, ce qui lui permet de reprendre les droits, il est gagnant parce que le montant de la cession est plus important que le chiffre qu'il pourra enregistrer de vente en 4 ans ou 5 ans à raison de 5 exemplaires vendus par an sur une région. Donc voilà un dispositif qui est nouveau, qui est perfectible, qui certainement se développera, mais je pense qu'il permet en tout cas de manière très pertinente aux éditeurs de se professionnaliser sur place, aux lecteurs et aux étudiants donc, d'acquérir facilement à un prix adapté les ouvrages en question et dans le respect naturellement du droit d'auteur pour éviter toutes les pirateries et les déformations de texte qu'on peut constater trop souvent. Le plus piraté, le plus photocopié, c'est probablement Kuruma. Si le seuil peut-être avait changé son état d'esprit, il avait vendu les droits à un éditeur ivoirien comme Eburni, par exemple, des œuvres complètes de Kuruma, probablement que Amadou Kuruma n'aurait pas été photocopié comme ça. Donc c'est vraiment des questions lentes de pédagogie qui mérite d'être, d'être développé. Alors je peux vous dire à titre d'exemple ce qui a été publié cette année. Donc Neige de marbre de Mohamed Dib aux éditions Chiab en Algérie, Al Capone le Malien de Samit Chak aux éditions Tropique en Cameroun et Graines de pensée au Togo, donc l'écrivain togolais. Trois titres de Fouad Laroui aux éditions Le Fennec au Maroc, Le vocabulaire des philosophes français de Drijlib Samb aux nouvelles éditions africaines du Sénégal, ou Printemps de Tunis, La métamorphose de l'histoire d'Abdelwahab Medeb aux éditions Cérès en Tunisie. Voilà. Donc, je finirai juste par un programme qui est spécifique à Haïti, intitulé Sans titre Haïti suite au séisme qui a ravagé le pays, comme on le sait. Qui a pour objectif non pas d'intervenir sur des titres dans le domaine de la cession, mais d'intervenir sur place. Là, c'est vraiment du travail de développement, de coopération et de développement sur place, d'intervenir sur la chaîne éditoriale pour permettre à un catalogue de 100 titres de littérature du patrimoine haïtien d'être édité et disponible, édité par des éditeurs haïtiens, est disponible en Haïti à un prix adapté au marché local, avec une commission qui se constitue, non sans difficulté, parce que Haïti Port-au-Prince c'est comme Paris, hein, c'est toujours des tensions très fortes entre les uns et les autres, c'est le village gaulois, et donc il y a une liste qui est constituée et qui a de ces titres, bien souvent d'ailleurs qui n'étaient pas non plus disponibles avant le séisme, d'ouvrages du début du XXe siècle, du patrimoine haïtien, naturellement forgeur d'identité culturelle du pays, de ces titres d'être à nouveau disponibles. J'en viens à un autre point, le troisième, qui est plus pointu encore d'agir au niveau de la diffusion de la distribution du livre en Afrique. Il y a eu un rapport qu'on a commandé, une étude pardon, qu'on a commandé à la société Archipel 21 en lien avec des opérateurs ou des organismes comme l'Association internationale des libraires francophones, AfriLivre ou système de distribution en Afrique ou subsaharienne ou l'Alliance des éditeurs indépendants, et qui donc une enquête qui permet d'aboutir à un certain nombre de propositions pour mettre en place des bureaux du livre de distribution régionale, plusieurs éclater le système de distribution en créant des bureaux sous-régionaux de distribution du livre. Décloisonner l'édition africaine, structurer les commandes, faire en sorte que la production des maisons d'édition africaines soit connue des Africains, travailler en synergie avec toute la chaîne du livre, fédérer les actions de promotion. Et donc on va travailler à des mises en place de différents bureaux de distribution sous-régionaux et la fourniture aux éditeurs d'Afrique subsaharienne de gabarits informatiques pour permettre un catalogage des œuvres, ce qui fait cruellement défaut, pour permettre un catalogage des œuvres suivant les normes professionnelles que l'on a en France. Voilà.